Chapitre 31, Confrontation. Une fois seul dans cette petite pièce nue, sorte de cabanon que M. Lecoq appelait son corps de garde, M. Mathieu rampa jusqu'à la chaise de paille qui était auprès de la table. Au lieu de s'y asseoir, il approcha de la porte la chaise d'abord, puis la table, avec cette facilité de mouvement qui semblait soudain lui venir quand nul regard ne l'épiait. La porte avait un guichet très petit, formé de trous ronds et recouvert d'un carré d'étoffe. Trois pattes l'ayant soulevé, vit M. Lecoq debout au milieu de la chambre, dans une attitude solennellement comique. M. Lecoq donna trois coups de talon, espacés selon l'art, et dit « Attention, au rideau, nous commençons !» Trois pattes répondit « Je suis à mon poste, patron !» M. Lecoq, agitant ses deux bras, siffla un « chut » prolongé. La porte qui communiquait avec les appartements de l'agence s'ouvrait à cet instant. M. Mathieu passa sur son front sa main qui tremblait et l'en retira, baigné de sueur. Il était très pâle. Ses traits gardaient leur immobilité ordinaire sous les masses révoltées de sa chevelure, mais un large cercle noir se creusait autour de ses yeux qui brillaient. M. Lecoq salua galamment la baronne et la conduisit à un fauteuil. Soit hasard, soit parti pris, le fauteuil où M. Lecoq plaçait ainsi la femme du banquier millionnaire se trouvait juste en face du guichet. Trois pattes ne jeta vers elle qu'un regard, puis ses yeux se fermèrent à demi, et il songea. Madame la baronne Schwartz était très émue, et peut-être cette longue attente, en donnant libre cours à ses réflexions, avait-elle augmenté son émoi, loin de le calmer. « Je m'occupais de vous, belle dame, » commença M. Lecoq. « Je suis perdu, » l'interrompit-elle d'une voix sourde qui fit tressaillir l'estropié dans sa cachette. Cette voix disait, bien mieux que les paroles elles-mêmes, l'angoisse profonde qui emplissait ce cœur. « Je le crois comme vous, belle dame, » répliqua M. Lecoq froidement, « et cependant nous n'avons pas la même opinion, j'en suis sûr, au sujet des motifs de votre perte. « Pouvez-vous faire, » demanda brusquement la baronne, « à prix d'or ou autrement, que cette jeune fille, Edmé Leber, s'embarque sur le champ pour l'Amérique ?» M. Lecoq eut un sourire dédaigneux qui se refléta, plus amer mais plus triste, sur les lèvres de M. Mathieu. M. Lecoq répondit « Il y a 13 jours de traversée entre New York et Le Havre. Je crois qu'on peut gagner encore un jour ou deux. Envoyer quelqu'un en Amérique, on avait de ces idées-là autant des navires à voile et des diligences, mais aujourd'hui, on prend mieux ses précautions. Ne vous inquiétez pas trop de cette jeune fille, c'est le petit côté de la question. » « Vous ne savez pas, » l'interrompit la baronne, « si fait, je sais. » La pensée, ambitieuse ou non, que j'ai eue un jour d'être le gendre de M. le baron Schwartz, m'a fait ouvrir les yeux. Vous concevrez pourquoi, sur votre riche et honorable maison. Peut-être le premier soupçon m'est-il venu de ce fait que vous cédiez à mes vœux avec une certaine répugnance. Des princes de l'argent comme vous ne doivent pas céder quand ils ont une répugnance. Mais peut-être aussi avais-je des jalons fort antérieurs, et certes, il me fallait bien quelques motifs, un peu romanesques à mon âge et dans mon humble état, pour prendre l'audace de briguer cette éblouissante alliance. « Votre retraite nous a fort étonnés, » dit la baronne avec un effort visible. « Ces choses-là font plaisir ou peine, belle dame. Étonné est un mot de juste milieu qui ne signifie rien. » En tout cas, je reste votre ami, si vous voulez bien le permettre, et je conserve pour cette chère demoiselle blanche une affection quasi paternelle. Parlons de vous, et ne parlons que de vous. » Il vint s'asseoir auprès de Madame Schwartz. Évidemment, ce n'était point la première visite qu'elle faisait à l'agence. « Vous excusez ma robe de chambre, belle dame, » reprit M. Lecoq en s'étalant dans son fauteuil. « Je suis sans façon, vous savez. » « Dites-moi, qu'est-ce que contient donc cette divine cassette ?»« Vous avez vu mon mari ?» balbutia-t-elle, ébahie. « Pas encore, » répliqua Lecoq. « Alors, comment savez-vous ? Le coq affecta de jouer avec les glands de sa riche cordelière. « Il faut nettoyer la situation, » dit-il, un homme qui laisse échapper malgré lui le fond de sa pensée. « Il y a longtemps que nous nous connaissons, chère madame, et les gens qui font des comédies ont bien raison de dire qu'il reste toujours quelque chose d'un premier amour. Ne vous offensez pas, nous aurions maintenant des enfants grands comme père et mère. » Et peut-être bien que vous ne seriez pas si près de ce bout de fossé où l'on fait la culbute. » Il avait tenu à la main, pendant toute son entrevue avec trois pattes, l'autographe de Picpus, qui était maintenant un chiffon fatigué. Les yeux de la baronne s'y étaient reposés par hasard. Il le déroula effrontément et le lissa sur son genou, disant « Cela regarde votre maison, chère madame. Vous êtes menacée d'une grande catastrophe, il faut bien arriver à vous l'avouer. » « Mon mari doit être ici, » murmura madame Schwartz. « Lequel ? » demanda monsieur Lecoq d'un ton paisible. Elle se prit à trembler. L'estropié dans son trou tremblait plus fort qu'elle. « Il faut nettoyer la situation, » répéta monsieur Lecoq, en pliant avec soin la note écrite par Picpus dans la voiture de livry. « Ma connaissance avec monsieur le baron est presque aussi vieille que mes sentiments d'admiration pour vous, et je ne puis m'empêcher de glisser cette observation que ces sentiments, platoniques il est vrai, eussent pu fournir un motif plausible de répugner à mon entrée dans votre famille. » Il y a eu en tout ceci du mal joué, vous êtes une pauvre belle âme égarée dans un méchant pays. Je reprends, si monsieur le baron voyait ce papier-là, il frissonnerait jusque dans les entrailles de son coffre-fort. Êtes-vous descendu parfois à la caisse, chère madame ?
Jamais, répondit-elle, mais je voudrais vous parler de ma situation.
« Vous auriez vu une chose curieuse, » interrompit Lecoq avec une bonhomie cruelle, « une chose que vous connaissez beaucoup, du moins par ouï dire. On appelle cela des marchés de rencontres. » « De rencontres, le mot est bien trouvé. » Le coffre-fort de M. Bancel, le malheureux banquier de Caen, était à vendre voici quelques années. « Monsieur le baron cherchait une caisse semblable, à défense et à secret. Vous n'ignorez pas que je suis spécial dans cette partie. Monsieur le baron me chargea de l'achat, et je trouvai cette pièce véritablement excellente, dont je pouvais répondre, puisque je l'avais vendue moi-même autrefois à cet infortuné Monsieur Bancel.
« Pourquoi donc me dites-vous cela ? » demanda Madame Schwartz d'une voix altérée.
« Parce qu'il y a des rapprochements étonnants, madame. Je sais aussi où est le brassard ciselé. »«
Le brassard ?» répéta Julie, avec un douloureux tressaillement. C'était bien Julie, en ce moment, Julie Ménotte et non point la baronne Giovanna Schwartz, car depuis une minute, son cœur entier vivait dans le passé.
« Qui donc possède ce brassard » interrogea-t-elle. « Oh, repartit monsieur Lecoq, il appartient à des gens qui ne le vendraient point, quoiqu'il soit très pauvre. Je l'ai reconnu dans la chambre à coucher de madame Leber. »
« La mère d'Edmé, » fit la baronne, dont la tête s'inclina sur sa poitrine. Vous eussiez dit que trois pattes de l'autre côté de la porte étaient en proie à une sourde et immense colère. C'était un regard de feu qui dardait au travers du guichet.
« Pourquoi chez la mère d'Edmé ?» bégaya la baronne. « Pourquoi ?
Savez-vous le vrai nom de la mère d'Edmé ? Il y a des moments où les vieilles choses qui dorment s'éveillent. Dans cette maison où nous sommes, je connais deux jeunes gens, le fils du magistrat qui condamna André Ménotte et le fils du commissaire de police qui l'arrêta, deux jeunes gens qui font une pièce de théâtre avec cette histoire-là, justement cette histoire-là, entendez-vous, et ça c'est drôle, et...
« Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, » murmura la pauvre femme avec accablement.
« Moi, je le sais, cela suffit. Le bouton de diamant, niaiserie. L'empreinte de la clé, fadaise. Notre pièce à nous marche plus vite que cela. Nous allons jouer tout à l'heure 3 actes en 10 minutes. Que contient la cassette ? Voilà 2 fois que je vous le demande. »
« Vos paroles ont l'air d'une menace, » dit la baronne d'une voix brisée.
Ce n'est pas moi qui menace, ce sont les faits. Vous avez eu raison de venir. Si vous n'étiez pas venu, j'aurais été cette nuit au château. Cette nuit, et pourquoi?
Parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes.
Il consulta sa montre et se leva. Trois-Pattes fit un mouvement, comme si, oubliant son infirmité, il eût voulu se mettre aussi sur ses jambes.
« Pas de faiblesse, reprit Monsieur Lecoq froidement. Vous allez éprouver un grand choc, chère madame. Tenons-nous fermes, les évanouissements n'avancent à rien. »
Il prit le pavillon d'ivoire qui se mit à siffler. « Le baron s'en va, dit le cornet. Il est furieux. Faut-il le laisser aller ?»
On sait que le son s'arrête à l'orifice même de ces appareils acoustiques. Rien ne parvint aux oreilles de la baronne, qui pourtant écoutait de toute la force de la terreur.
Monsieur Lecoq répondit, « Rappelez-le, qu'il vienne et qu'il se calme, je le veux. »
Julie entendit cette fois et dit précipitamment, « Vous allez recevoir un étranger, je me retire. »
« Ce n'est pas un étranger, » répliqua Monsieur Lecoq durement. « Tenez-vous ferme, nous jouons gros ici. Je vous en préviens, tous, autant que nous sommes. »
Julie, qui s'était levée à demi, s'affaissa de nouveau sur son siège. À ce moment, la porte qui communiquait avec les appartements de l'agence s'ouvrit, et Monsieur le baron Schwartz fit son entrée. Julie étouffa un cri de détresse et resta muette sous son voile comme derrière son abri. Trois-Pattes avait collé son œil au trou du guichet.
« Temps perdu, » dit le baron en passant par le seuil. « Fatigant et inconvenant. »
Ce dernier mot rétablissait les distances. Il fut prononcé du ton qu'il fallait. Monsieur Lecoq avait fait quelques pas au-devant de son hôte et masquait ainsi Julie.
« Deux mots à dire, » reprit Monsieur Schwartz, parlant son langage abrégé.
« Pas d'excuses, perds du temps. »
« Je n'ai pas d'excuse à vous faire, monsieur le baron, » déclara au contraire monsieur Lecoq avec ampleur. « J'ai agi, comme je le devais, dans votre intérêt. »«
Mon intérêt ?» répéta le millionnaire en se redressant de son haut.
Monsieur Lecoq s'effaça avec cette agilité de corps qu'il avait gardée et qui le faisait plus jeune que son âge. À la vue de la baronne, immobile et repliée sur elle-même, monsieur Schwartz recula de quelques pas. Ses dents claquèrent d'un coup sec. Le voile n'y pouvait rien, il l'avait reconnu d'un regard.
« Ah !» dit-il, frappé violemment et d'une façon inattendue, malgré les soupçons qui roulaient dans son esprit depuis une heure, « c'était elle ?»«
Parbleu !» fit Lecoq avec un gros rire. « Il a bien dit ça, le beau-père, c'était elle !»
Le baron resta pétrifié. L'insolence glissait sur lui, ou plutôt augmentait son épouvante. Dans la chambre voisine, Trois-Pattes écoutait et regardait. Il retenait son souffle. Son cœur avait peur de battre. La conduite de Monsieur Lecoq était pour lui une énigme à demi devinée, mais il est des drames dont on sait d'avance le dénouement et qui, nonobstant cela, dégagent une écrasante émotion.
« Il faut nettoyer la situation !» répéta pour la troisième fois Monsieur Lecoq, allongeant à plaisir les préliminaires pour alourdir d'autant le poids qui opprimait la poitrine de ses hôtes d'abord et en second lieu pour se monter lui-même au diapason qu'il avait réglé d'avance. « Il faut prendre le taureau par les cornes. Vous n'êtes pas dans de beaux draps. Non, je ne suis pas un Saint-Vincent de Paul, moi, que diable. Si je le disais, me croirait-on, mais je peux rendre service quand mon intérêt y est.
Madame la baronne, voulut commencer Monsieur Schwartz.
Vous, la paix, Jean-Baptiste,
l'interrompit bonnement Monsieur Lecoq. Ce nom de baptême, employé à l'improviste, produisit un effet très singulier. Le millionnaire se tut docilement et parut on ne peut plus déconcerter. Ce fut à ce point que Trois-Pattes ne put s'empêcher de sourire dans sa cachette. Il trempa sa plume dans l'encre et traça quelques lignes à la hâte.
« Nous avons à causer tous trois, » poursuivit Monsieur Lecoq en poussant un fauteuil vers le baron, « à causer de choses si étonnantes que si vous restiez debout, vous pourriez bien tomber de votre haut. Donnez-vous la peine de vous asseoir. »
« Vous prenez sur un ton, » balbutia le baron, abandonnant du coup son langage habituel. Il s'assit pourtant, détournant son regard de la baronne qui semblait une morte.
Aimeriez-vous mieux un doreur de pilules, reprit monsieur Lecoq, cachant sous un verbeux aplomb les tâtonnements de son escrime. On ne se refait pas, écoutez donc, à mon âge surtout. Nous n'avons plus 20 ans, Jean-Baptiste. Je suis tout rond, je vais droit au but. J'aime mieux froisser que tromper. Voici donc la chose. Monsieur le baron et madame la baronne, malgré les millions que vous avez, je ne voudrais pas être dans votre peau. Expliquez-vous brièvement, dit monsieur Schwartz, qui essaya de reprendre un accent d'autorité. Je m'expliquerai comme je voudrais, mon garçon. Eh, vous n'êtes pas venu ici, chacun de votre côté, pour des prunes, je suppose. Un jésuite vous dirait des tas de balivernes. Moi, je n'ai pas le temps. Votre femme vous a trompé, bonhomme. Julie ne bougea pas. Monsieur Schwartz serra les poings et gronda. Je m'en doutais. Son visage décomposé criait plus de douleur encore que de colère, et il eût été impossible au plus déterminé railleur de prendre la situation au comique. Ce qu'il y avait sur les traits de trois pattes aux aguets, c'était surtout maintenant une curiosité avide. « Il s'agit bien, poursuivit monsieur Lecoq avec un souverain mépris, de rabâcher les vieilles scènes de jalousie, de fureté, d'espionner, de voler les clés, d'en prendre l'empreinte pour ouvrir les tiroirs du secrétaire comme un coquin. « Monsieur, voulut l'interrompre le baron, parbleu, vous allez dire que vous n'avez pas l'empreinte dans votre poche, et moi je vous réponds qu'il n'y a plus rien dans le tiroir. Mais consolez-vous, si vous êtes curieux, vous allez en avoir tout votre sou. » Qu'est-ce que le tiroir vous aurait dit? Le mensonge de votre femme? C'est fini, le mensonge. Il y a un temps pour tout, et voilà votre femme qui va vous servir un plat de vérité. Est-ce donc vous qui me portez ce défi, madame? Demanda le baron avec la dignité des profonds chagrins. Ah ça! S'écria monsieur Lecoq. Vous n'avez donc pas encore compris qu'il ne s'agit pas d'une querelle de ménage? Je ne suis pas méchant, moi, que diable, et je ne vous aurais pas mis en présence pour vous faire de la peine. C'est vous qui avez commencé. Vous avez trompé votre femme, monsieur Schwartz. Vous saviez que son premier mari existait. J'affirme, commença le banquier. Vous avez tort d'affirmer. Je jure. « Ne jurez pas !» prononça la baronne, qui était restée muette jusqu'alors. « Ah, la bonne heure !» dit Lecoq. « Voilà la chère dame qui a retrouvé la parole. Il faut que vous sachiez, monsieur le baron, que madame la baronne est pour le moins aussi étonnée que vous. C'est une surprise des deux côtés. Je suis un drôle de corps, et vous allez voir comme je conduis une discussion. Je me suis occupé de vous toute la soirée. Connaissez-vous monsieur le marquis de Gaillard-Bois ? Le baron desserra le nœud de sa cravate. « À moins que vous ne la choisissiez foudroyante, ce qui est une solution, grommela monsieur Lecoq avec humeur, une attaque d'apoplexie me paraîtrait manquer d'à propos en ce moment. Un peu de vigueur, que diable, soyons un mâle et nous en sortirons. Je vous parlais de ce cher Gaillard-Bois parce qu'il fait des pieds et des mains pour être préfet de police. C'est un homme de tenue, il s'est mis en tête de pêcher aux habits noirs. » « À combien se monte le compte de vos commissions sur les affaires du colonel Bozzo, cher monsieur ?» Ceci fut lancé incidemment et d'un ton d'insouciance admirablement joué. Parmi ceux qui étaient là, trois pattes seules devina une partie de la portée que pouvait avoir la question. Le baron répondit avec fatigue. « Chez moi, tous les comptes sont à jour. Adressez la demande à mes bureaux. » « C'est là le tort, dit monsieur Lecoq en baissant la voix, c'est là le grand tort. Il ne faut pas mettre des comptes pareils dans ses bureaux quand on veut dormir tranquille. Ce diable de Gaillard-Bois était bien renseigné. Il m'a dit tout uniment le banquier des habits noirs est monsieur le baron Schwartz. « C'est une calomnie, répliqua le baron. Juste ma réponse à Gaillard-Bois. N'avez-vous pas un valet du nom de Domergue ?» Si fait, un vieux et fidèle serviteur. Il faut vous dire qu'avec l'affaire des habits noirs bien menée, Gaillard-Bois emporterait d'assaut la préfecture. Chacun va à son but comme il l'entend, n'est-ce pas? Il y a des agents qui rôdent autour de vous, à Paris et à la campagne. Ce Domergue, un vieux et fidèle serviteur, joue au jeu de « fera-t-il jour demain ?» La baronne laissa échapper un mouvement. « Serait-ce pour votre compte, belle dame ?» demanda monsieur Lecoq. « Oui, répondit-elle courageusement. Sur le papier qui était devant lui, la main distraite de Monsieur Mathieu venait de tracer ces mots « Une araignée qui tend sa toile ». Elles vont de ci, de là, en effet, accrochant partout le fil gluant qui portera leur travail aérien. Au début, on ne devine pas la forme régulière de ce piège merveilleusement disposé. On dirait qu'elle travaille au hasard, mais bientôt la trame apparaît, laissant voir l'ingénieuse série de ses mailles concentriques. Et tout ce qui veut passer au travers reste captif. Monsieur Lecoq salua la baronne et se tourna vers son mari. « Je ne sais pas tout, dit-il. On ne sait jamais tout dès qu'il y a des dames. Ma seule prétention est d'en savoir assez pour vous donner un bon conseil, bon pour vous, bon pour moi, car vous pensez bien que je ne travaille pas ici en faveur du roi de Prusse. Nous reviendrons peut-être à l'ami Gaillardbois qui est en passe d'arriver. Allons de l'avant. Madame la baronne, ayant un autre mari que vous, à notre connaissance, il ne vous étonnera pas d'apprendre qu'un fils existe. » « Michel ?» murmura le baron Schwartz, dont le visage s'éclaira franchement. Il ajouta, en se tournant vers sa femme et avec l'accent d'une véritable passion, « Ah, madame, oh, Giovanna, que ne le disiez-vous » Elle garda le silence. L'éclair de son voile laissait voir ses yeux baissés sur la pâleur de sa joue. Monsieur Lecoq eut un bon rire. « Ah, voilà ce qui manque dans cette vieillerie de pièces, la femme à deux maris !» poursuivit-il. « C'est un luron comme moi, établissant une situation carrée. Eh bien quoi, on ne peut donc pas s'expliquer, au lieu de filer des scènes interminables d'un mélodrame. Cette pièce-là, vous le savez, se joue chaque jour une douzaine de fois, à Paris, où la bigamie mène en cour d'assises. » La cour d'assises a beau faire les gros yeux, elle n'empêche rien, et, plaisanterie à part, la femme a presque toujours de très bonnes raisons. Il lui suffirait de causer la bouche ouverte, on s'embrasserait et tout serait fini. Êtes-vous de mon avis, Jean-Baptiste ? C'était la troisième fois que M. Lecoq employait ce prénom, et rien dans ses rapports usuels avec le riche banquier ne l'autorisait à cette familiarité qui, parmi tant de choses faites pour exciter l'étonnement, surprenait Julie au plus haut point. M. Schwartz ne protestait point. Il semblait en quelque sorte écrasé sous l'étrangeté de la situation qui, selon ses pressentiments, allait démasquer bientôt de nouvelles menaces. Le ton de M. Lecoq réveillait en lui, avec une vivacité singulière, des souvenirs déjà lointains. Il éprouvait, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans sa mémoire, la saveur même de ses impressions lors de sa rencontre sur le quai de l'Orne avec l'effronté commis voyageur le 14 juin 1825. Aussi tressaillit-il comme si sa propre pensée eût parlé quand Lecoq, le regardant en face et plongeant ses mains dans les poches de sa robe de chambre, reprit tout à coup « Le vin, le jeu, les belles, eh bonhomme, notre dîner à l'auberge du Coquardi, maman brûlée faisait bien la cuisine, et le mari, le fameux mari, car il y avait aussi un mari, bien tapé, l'alibi d'amour, ma canne oubliée, ma canne à pommes d'argent, et la leçon répétée au commissaire de police, un Schwartz encore, autant que de pavés. Nous n'étions pas fiers la nuit sur la grande route et dans le chemin creux, le billet de mille. En voilà un qui a fait des petits depuis le temps, Jean-Baptiste. » Monsieur Schwartz avait de grosses gouttes de sueur aux tempes. Un soupir comprimé souleva la poitrine de l'estropié qui plongeait son regard pensif dans le vide.